Ça va ?
Alors, je vais procéder à un commentaire phrase par phrase. Il marche pas ? Alors, phrase par phrase. J'écris ça et je n'écris pas après terminé, ni amen, ni ainsi soit-il. Ça va là ? On entend ? Bien. La phrase précédente que Lacan avait écrite au tableau a été commentée par Colette Solaire il y a 15 jours. Je vous la rappelle, la jouissance de l'autre, du corps de l'autre qui le symbolise, n'est pas le signe de l'amour. Cette phrase n'est pas à prendre pour une phrase sacrée qu'on récite comme une prière. Ce n'est ni le dernier mot, ni une vérité en soi. L'amour, certes, fait signe, et il est toujours réciproque. C'est surprenant, mais c'est beau. Ça sonne bien. Et c'est parfaitement illustré par une scène d'un film d'Agnès Jaoui, où il y a une jeune femme attendant l'amour depuis toujours, qui se rend sans plus y croire à une soirée, qui se donne dans une demeure baroque, où trône un archange majestueux, pointant son doigt vers les humains. Soudain, la jeune femme est éblouie à la vue d'un jeune homme, plutôt insignifiant, mais éclairé d'une lumière quasi divine, lorsqu'il s'immobilise sous le doigt pointé de l'ange. L'amour fait signe, et nous voyons dans le regard du jeune homme qu'il est réciproque. Le film s'appelle « Au bout du compte ». Lacan ne nous avait pas habitués à des contes de fées. Ses histoires d'amour à lui finissent mal, en général. C'est toujours le même rendez-vous. Quand les masques tombent, ce n'était pas lui, ce n'était pas elle non plus. L'amour est toujours une méprise, il est réciproquement raté. L'adverbe « certes », inséré en début de phrase, était déjà l'indice d'une concession. L'amour « certes » fait signe. Alors le terme « signe » renvoie bien sûr à la phrase qu'il avait écrite au tableau, mais la formulation est différente. Ce n'est pas « l'amour est le signe », mais « l'amour fait signe ». Pour Lacan, ce qui fait signe, c'est une signification. La signification, ça fait signe, on le retrouve plusieurs fois dans les séminaires précédents. La signification, ça fait signe en marquant un point d'arrêt, là où le sens, au contraire, peut toujours s'alimenter d'un nouveau sens. L'amour est une signification puisqu'il fixe, au moins pour un temps, le sujet à l'objet aimé. Il diffère en cela du désir, qui de structure est métonymique et donc labile. Le désir est toujours désir d'autre chose. L'amour est une signification, c'est déjà dans le séminaire sur le transfert, lorsque Lacan cherche à saisir le moment de bascule où, je le cite, « de la conjonction du désir avec son objet doit surgir cette signification qui s'appelle l'amour ». Est-ce l'amour qui fixe le désir ou l'amour qui surgit du désir ? Laissons la question ouverte sur les modalités de rapport entre désir et amour. L'amour, certes, fait signe et il est toujours réciproque. L'affirmation a de quoi surprendre. D'autant que Lacan utilise souvent la notion de réciprocité pour la réfuter. Dans sa critique de la théorie de l'intersubjectivité en tant que modèle relationnel en symétrie et en correspondance complète, comme dans sa critique de la théorie de la communication, qui réduit l'horizon du langage à la fonction réciproque du code et du message, Lacan défend depuis toujours que les relations du sujet à l'autre ne sont pas réciproques. Pourtant, ici, il insiste, toujours réciproque, il le dit depuis longtemps, et l'a avancé très doucement en disant que les sentiments, c'est toujours réciproque. Les sentiments sont toujours réciproques, c'est dans la leçon du 27 janvier 54 qu'il le dit la première fois dans son séminaire « Les écrits techniques de Freud ». Lacan reconnaît qu'avant d'être analyste, lorsqu'il était psychiatre, il réglait sa boussole pour évaluer certaines situations avec cette formule « les sentiments sont toujours réciproques ». Et il maintient que c'est absolument vrai, je le cite, « malgré l'apparence, dès que vous mettez en champ deux sujets, je dis deux, pas trois, les sentiments sont toujours réciproques ». comment comprendre cette affirmation que contredit la connaissance la plus élémentaire des amours humaines ? On peut aimer sans être aimé en retour. Le manque de réciprocité est d'ailleurs la source d'une mélopée sans fin. Car aimer, c'est vouloir être aimé. Distinguons d'abord réciproque de symétrique, de similaire, d'équivalent ou de complémentaire. Réciproque, ça vient du latin reciprocus, qui signifie « qui va en arrière après avoir été en avant ». Il me semble que l'amour toujours réciproque vise l'essence narcissique de l'amour. Le rapport narcissique, c'est la relation imaginaire réduite à l'image de l'autre. Elle ne peut être que réciproque puisqu'elle est en miroir. La réciprocité, c'est le plan imaginaire où il n'y aurait pas de dialectique triangulaire. Le sujet aime et voit dans l'autre sa propre image qui fait donc retour sur lui. D'autant plus que le sujet s'aime aimant dans une sorte de mise en abîme de son image reflétée. Cet écho se trouve, je crois, dans la scénette que Lacan joue pour illustrer ce mouvement de retour. C'était pour que ça me revienne, et alors, et l'amour, il est toujours réciproque, mais oui. C'est même pour ça qu'on a inventé l'inconscient. Ça me paraît évoquer Freud, l'inventeur de l'inconscient, qui a compris que ce qui lui revenait, c'était de l'amour de transfert, et qui s'en est saisi pour affirmer l'existence de l'inconscient. Donc c'est pour ça qu'on a inventé l'inconscient, pour s'apercevoir que le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Ça, c'est une phrase sacrée, un des aphorismes les plus connus de Lacan. Remarquons que nous passons de l'amour au désir, dans un glissement dont le pivot est l'inconscient. Que dire de cet aphorisme mille fois commenté ? Nous passons du registre imaginaire, l'amour narcissique, au registre symbolique. En effet, c'est dans le lieu de l'autre, lieu de la parole, que s'articule le désir de l'homme. Désir qui, de ce fait, n'est pas un besoin auquel pourrait répondre un objet, mais quelque chose qui se situe entre demande de satisfaction du besoin et demande d'amour. Tout au long du séminaire 6, le désir et son interprétation, Lacan situe le désir à mi-chemin, dans un espace intermédiaire, entre les deux chaînes signifiantes de son graphe, et le distingue radicalement de la demande. Le désir est toujours désir d'autre chose. Dans ce séminaire 6, Lacan fait de Hamlet le personnage et la pièce qui illustre le mieux la complexité des différents plans qui se condensent dans cette formule, le désir de l'homme et le désir de l'autre. Si le drame d'Hamlet est le drame du désir, c'est que le désir d'Hamlet est sans cesse déterminé, contrarié, ajourné ou exacerbé par le désir de l'autre, qu'il soit paternel, maternel, amoureux ou rival. Le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre, ça ne donne pas pour autant une consistance stable ou établie au désir du sujet. Car le désir de l'autre, si aliénant qu'il soit, reste en même temps un point d'énigme, une inconnue. Ainsi, le désir du sujet se constitue autant des failles que des diktats du désir de l'autre. C'est en ce point de manque du désir de l'autre que le sujet retourne par une sorte de torsion fondamentale au point initial qui est celui de son propre manque. Et c'est ce propre manque, appelé par Lacan objet A, qui cause le désir. En pensant à l'expression équivoque « ça laisse à désirer », je me rappelle que le verbe « désirer » est issu du latin « desiderare », composé en « deux » à valeur privative et de « sidus, eris, astre ». Ça signifie littéralement « cesser de contempler l'astre » dans le sens de « constater son absence », avec une forte idée de regret. « Manque, absence et désir » disent la même chose. On continue. Et que l'amour, si c'est là une passion qui peut être l'ignorance du désir, ne lui laisse pas moins toute sa portée. Quand on y regarde de plus près, on en voit les ravages. Alors là, on peut avoir la tête qui tourne, c'est un peu complexe. En une phrase, Lacan brosse tout l'éventail de l'expérience amoureuse, dans la variété des possibilités que produit la conjonction du désir et de l'amour. À une extrémité, il y a un amour qui ignore le désir, l'amour des âmes, entre âmes, sans l'érotique des corps. À l'autre extrémité de cette clinique amoureuse, il y a un désir laissé à sa seule portée qui exerce ses ravages. Là encore, je me suis arrêtée à l'étymologie du mot « ravage », dérivé du verbe « ravir » qui est une altération du verbe latin « rapere » qui signifie « entraîner avec soi, emporter violemment, enlever de force ou par surprise ». Par métonymie, « ravage » désigne un dommage important causé avec violence et rapidité par l'homme ou par la nature. La langue familière emploie l'expression « faire des ravages » pour signifier « se faire aimer et faire souffrir ». Le désir est-il d'autant plus ravageur qu'il est moins noué à l'amour ? Faut-il en déduire que l'amour tempère le désir, le rend moins tempétueux en même temps que plus éclairé ? L'amour est la sublimation du désir. C'est un des aphorismes sur l'amour dans le séminaire de l'angoisse. À moins que les ravages ne proviennent de l'amour. La phrase est ambiguë et on peut aussi se rapporter, elle peut aussi se rapporter à l'amour lorsqu'il est passion qui ignore le désir. Qu'est-ce qu'un amour passion sans désir ? L'amour sans désir est certes assez répandu, mais alors il ne se dit pas en termes de passion, mais plutôt en termes de raison ou de résignation. Peut-être que certaines amitiés sont des passions sans désir. On peut aussi penser aux psychoses passionnelles. Ou encore à l'amour dans la religion, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dont nous n'ignorons pas les ravages en termes d'intolérance, de guerre, d'inquisition. Mais si Lacan a glissé de l'amour-sentiment toujours réciproque à l'amour-passion, il questionne bien dans tout ce passage que je commente l'amour qui n'ignore pas le désir, puisque je vous le rappelle, nous partons de ce qui se passe au lit. La jouissance du corps de l'autre, reste, elle, une question, parce que la réponse qu'elle peut constituer n'est pas nécessaire. Ça va même plus loin, ce n'est pas non plus une réponse suffisante. Alors, la jouissance n'est pas une réponse nécessaire à l'amour. On peut l'entendre de plusieurs façons. D'une part, l'amour peut se passer de la jouissance. D'autre part, la jouissance est inutile, c'est ce qui ne sert à rien. C'est une reprise de la formulation de la page précédente. Je ne résiste pas à vous citer l'épigraphe d'un essai de Simon Leys, paru l'an dernier. Les gens comprennent tous l'utilité de ce qui est utile, mais ils ignorent l'utilité de l'inutile. C'est de Zhuangzi. Alors donc, jouissance est inutile, mais de plus, la jouissance, quand elle est là, elle est insuffisante pour répondre à l'amour. Pourquoi ? Première raison, car la jouissance ne répond pas. Elle ne fait pas lien, elle isole. La jouissance qui existe, qui est en dehors du champ de la représentation, ne se prête pas à faire rapport entre les êtres. Deuxième raison, celle que donne Lacan, parce que l'amour demande l'amour. Nous retrouvons le principe de réciprocité. Le sujet qui aime veut être aimé. L'amour est demande, bien plus que don. Est-ce que l'amour ne demande que l'amour ? On pourrait dire aussi que l'amour demande le désir. Une femme amoureuse, par exemple, peut vouloir être aimée et désirée. Mais je crois que le désir, lui, ne se demande pas. L'amour demande l'amour. Il ne cesse pas de le demander. Cette formulation prépare ce que Lacan va développer à partir de la leçon du 20 mars d'Encore sur ce qui cesse, ne cesse pas de s'écrire ou de ne pas s'écrire, comme formule du nécessaire, du contingent, du possible et de l'impossible. Ce qui ne cesse pas de s'écrire, c'est le nécessaire. Il ne cesse pas de le demander. On peut en déduire que l'amour demande nécessairement l'amour. Il le demande encore, s'adjoint au principe de réciprocité, un principe de répétition. Encore, c'est le nom de la réciprocité nécessairement répétée. Mais pourquoi l'amour ne cesse-t-il pas de le demander? Ne connaît-il pas le repos? Pourquoi est-il insatiable? La phrase suivante donne la réponse. C'est la structure qui l'impose. Encore, c'est le nom de cette faille d'où dans l'autre part la demande d'amour. Encore un effort, c'est la dernière phrase du paragraphe. Il y a quelque chose de lyrique dans cette phrase. Encore, c'est le nom de cette faille d'où dans l'autre part la demande d'amour. Quelque chose de lyrique qui prête à confusion, car elle porte à imaginer l'autre, le partenaire amoureux, demander encore. Or, la faille dans l'autre désigne ici le défaut, le manque dans la structure. C'est l'autre du discours, l'autre du symbolique, qui, en constituant le par-l'être, le décomplète. Et c'est la béance laissée par l'objet A, objet perdu, que le sujet cherche à couvrir par la demande d'amour. Aucun amour ne peut satisfaire notre soif d'amour, mais c'est le mieux qu'on puisse faire. C'est pourquoi il ne faut pas renoncer à l'amour.
Je vous remercie. De façon plus optimiste que moi.
Ah oui, non.
On a changé l'ordre.
Est-ce que tu as dit tout?
Wilhelm. Bon, donc vous venez d'entendre Agnès Wilhelm, parce que je ne suis pas sûre qu'elle s'est présentée. Et ben, je vais continuer un petit peu sur le même thème. Et le titre, c'est « Tenir le miroir à la bonne hauteur, est-ce que c'est ça l'amour ?» Alors, il y a quelque temps, fort opportunément, car cet événement m'a permis d'entrer dans le propos, je reçois une carte postale. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous la faire circuler, parce que quand même, c'est un peu délicat, et vous n'allez pas voir grand-chose, mais je vous la décris. C'est un dessin de Vooch. Conseille vivement Vooch, il est très drôle. Et côté correspondance, la personne qui me l'écrit m'écrit que c'est l'aveu que cela résume une délicieuse, le mot est entre guillemets, rencontre. Alors la carte, donc, c'est un couple, vous voyez peut-être. Non, vous ne voyez rien du tout. Vous connaissez les dessins de Vooch, un peu, hein? Donc là, il y a le monsieur, là, il y a la dame. Ils sont... Bon, ben, je ne vous la montre pas trop, ce n'est pas la peine. Je vous la décris. Ils sont... Mais allez acheter des BD de Vooch, c'est vraiment délicieux. Ils sont en train de déjeuner, de dîner, oui, parce qu'il fait sombre, de dîner dans un restaurant qui pourrait être, par exemple, la terrasse de Beaubourg. Leurs mains sur la table, oui, vous ne pouvez pas voir, sont proches, ne se touchent pas, ne se frôlent pas, mais enfin, on comprend que c'est l'instant de la déclaration. Et le dialogue, donc, lui, « Je vous aime presque autant que moi-même, Caroline. Croyez-moi, c'est énorme. » Et c'est pas fini, énorme et souligné. Bon, elle, alors vous pouvez pas voir sa mine, mais enfin, elle répond pas et elle est un peu quand même étonnée. Voilà. Alors, cette carte vaut bien la déclaration que j'aime à citer, qui est faite par Woody Allen à l'une de ses partenaires d'écran. « Mon amour, toi et moi, désormais, nous ne faisons plus qu'un moi. » Alors, l'or est mon double, aurait dit Bataille un peu plus sérieusement. Mais vous voyez que c'est la même chose. Oui, car il n'y a que du un, et c'est pourquoi on peut dire, suivant Lacan, que l'amour entendu ici comme sentiment, est toujours réciproque. Pas le désir, en effet, bon, je répète un peu ce qu'Agnès a dit, pas le désir qui suppose de faire de l'étranger en soi, à soi, en soi aussi d'ailleurs, de l'autre, ce qui ne va pas sans quelques difficultés, car l'autre sait, je cite la page 75 d'encore, l'autre sexe pour tous. Ce n'est évidemment pas à entendre comme un slogan, mais ça donne à réfléchir sur le pour tous des slogans contemporains. Bon, je laisse cette question en suspens. Évidemment, personne n'a défilé avec l'autre sexe pour tous. Ça aurait été plus drôle. Alors que les sentiments sont toujours réciproques, Lacan déclare, dans le paragraphe qu'Agnès a commenté et comme elle a relevé, que c'est quelque chose qu'il a avancé depuis longtemps, et il rajoute très doucement. Doucement, quand même, c'est un affect. Alors, tous les sentiments, donc, sont réciproques, pas que l'amour, donc la haine aussi, et l'indifférence, qui sont ses voisins, voire ses prochains, en tant que patients à un niveau qui affecte l'être réellement. Vous savez, ce sont les trois passions de l'être. Donc j'en reste à l'amour, puisqu'on ne va parler que d'amour, hein. C'est bien. Enfin, entre parenthèses. J'en reste à l'amour, bien que Lacan l'étende jusqu'à l'énamoration, vous savez comment il écrit énamoration, réunissant en un seul mot deux des dites passions, et la considérant aussi comme réciproque, l'énamoration. Alors, que l'amour soit toujours réciproque dans ces conditions-là, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de raisons pour s'en réjouir, même s'il y en a quelques-unes. Alors, je commencerai par ce que Freud en dit, enfin, un tout petit florilège, parce qu'évidemment, pas aller voir tout Freud. Hein. Alors, d'abord, les présupposés paraissent les mêmes que celles énoncées par Lacan. Il n'y a pas de sympathie entre amour et désir, voire il y a une incompatibilité. Bien qu'il semble que Freud n'en fasse pas une règle générale, mais plutôt un type particulier de choix d'objet, comme l'annonce l'article de 1910, la non-confluence des courants tendres et sensuels dans la vie amoureuse devient cependant beaucoup plus répandue dès l'article de 1912 sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse que José a commenté ses textes lors de la première séance du séminaire. Alors, c'est donc pour introduire le narcissisme en 1914 que Freud dégage ce qu'il considère comme les deux fondements de l'amour. Alors, premièrement, on aime celui, celle qui prend soin, qui ménage, qui soutient, qui se soucie. C'est l'amour par étayage. Je vais faire quelques citations en cours de route, un peu anciennes. Celle-ci, elle date de 1777. « La femme incapable de sentir un peu de mes angoisses et de la partager n'aurait jamais la moindre part à mon affection. » C'est Beaumarchais à Madame de Godeville. Alors pourquoi dans le fond? Pourquoi cet amour par étayage? Un adulte est censé pouvoir veiller à la conservation de sa vie. Lacan qui commente la distinction freudienne dans la leçon du 19 décembre 56 du séminaire 4, la relation d'objet, interprète l'amour sur fond d'étayage par la persistance d'une relation de dépendance dans le prolongement de la position infantile de demande adressée à une mère phallique. Est-ce que c'est ce qu'on entend dans les consultations pour enfants lorsque la mère, désignant le père, entre satisfaction et agacement, déclare « c'est mon plus vieil enfant ». Alors, deuxièmement, vous l'avez entendu, tout le monde l'a entendu. Alors, ceci amène donc vers le deuxième socle de l'amour, par narcissisme primaire, précise Freud. Lacan ne fait pas ce distinguo, le narcissisme a toujours un objet, soi. Dans ce type de lien, l'autre, le partenaire, est traité de façon semblable à celle dont on se traite soi-même, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément une garantie de qualité. Mais cela fonde l'espoir de trouver dans le miroir que l'autre tient à la bonne hauteur ce que l'on est, ce que l'on a été, ce que l'on voudrait être, le moi idéal, une part de ce que l'on croit être, l'idéal du moi. Dans tous les cas, un complément d'être. Lacan, toujours dans son commentaire de décembre 56, situe l'origine de ce soutien par l'amour par narcissisme dans la relation spéculaire à l'autre, le petit autre cette fois-ci. Le sujet aime l'image où il s'anticipe aimablement parfait. Alors dans le fond, avec cette histoire de miroir, ça serait une erreur de dire que l'amour est aveugle. Il n'est pas aveugle, au contraire, il est aveuglant. Ce type d'attachement amoureux serait plus fréquent chez les femmes, écrit Freud, et ça c'est dans sa logique interprétative de l'envie phallique de celle qui range de ce côté de la sexuation. Plaît à une femme l'homme qui l'aime, chez lequel elle croit trouver ce dont elle croit manquer. C'est une méprise qui a garanti longtemps la reproduction de l'espèce et la stabilité des liens socio-familiaux. Pour Lacan, s'il n'y a ni parité ni symétrie, il y a du même, M-E-M-E, il faut entendre l'équivoque évidemment, M apostrophe, pour les deux sexes. Les femmes, au pluriel, se m'aiment, E-N-T, dans l'autre, c'est page 79 d'Encore. Ce passage sera commenté le 5 juin. D'ailleurs, j'ai laissé beaucoup de travail pour mes collègues du 5 juin. Donc ça, c'est les femmes. L'homme, singulier, voit dans la partenaire ce dont il se supporte narcissiquement. Il faut préciser que Freud lui-même, 7 ans après le texte pour introduire le narcissisme, donc en 1921, dans Psychologie des foules, traite aussi les sexes à la même enseigne. Je cite, « L'objet est traité comme le moi propre, dans l'état amoureux. Une bonne mesure de libido narcissique déborde sur l'objet. Dans maintes formes de choix amoureux, l'objet sert à remplacer un idéal du moi propre non atteint. » Je ferme la parenthèse. Entre-temps, en 1917, dans Deuil et mélancolie, il avait fait de l'identification la forme primitive d'amour de l'autre comme de soi-même, la première façon dont, je cite, « le moi est lié à un objet » et ce pour les deux sexes. Ce dont on trouve écho dans le séminaire 2, le moi dans la théorie de Freud, je cite, « c'est toujours autour d'une sorte d'ombre errante de son propre moi que se constitueront tous les objets. » Lacan, cependant, renouvelle l'abord de ce que Freud désignera comme le continent noir. Côté femme, le patou, la part qui échappe à l'amour homosexuel avec deux M, pourrait laisser place à un amour qui se passerait du miroir. Au moins qui laisserait place à un vide dans le miroir, puisque le patou n'a pas de reflet. Qu'est-ce que serait un amour patou ? Pas tout à fait fou non plus, et pas non plus vampirique, puisque vous savez que ce qui n'a pas de reflet, c'est le vampire. Échappe-t-il pour la part patoute à la réciprocité ? Alors je laisse cette question à mes collègues qui sont en charge du commentaire de ces pages d'Encore, qui se trouve dans la séance du 13 mars 73. De fait, il n'y a pas lieu d'opposer ces deux conditions déterminant l'amour, ça c'est, je cite Freud, étayage et narcissisme, en particulier quant à la réciprocité de ce sentiment. Sans doute peut-on le lire dans l'adieu de George Sand à Alfred de Musset, une lettre d'avril 1834. J'ai lu beaucoup de lettres d'amour pour faire ce texte. C'était pas mal d'ailleurs. Adieu mon Alfred, aime ton Georges, ton ami au masculin, elle parle d'elle, hein, ton vrai camarade, narcissisme, ton infirmière, étayage. Ouais, c'était complet. Car dans l'amour par étayage, il s'agit tout autant de tenir le miroir à la bonne hauteur, moins que pour que s'y reflète un sujet rassuré d'être estimable, mais assuré d'être l'unique, l'irremplaçable, le seul, la seule, à pouvoir se tenir à cette place qui promet de garantir, je cite Freud, une immortalité du moi que la réalité bat en brèche. Comment ne pas s'aimer ? Aimer dans celui, celle qui, par sa vigilante présence exclusive, particularisée, donne l'illusion d'être maître, que l'on pourrait écrire maître, M'être, de son destin, à qui est pourtant promis à la mort. Je conclus ce rapide parcours freudien, passé par Lacan d'ailleurs, par l'illustration d'un amour réciproque là où on ne l'attendrait pas, on ne s'attendrait pas à le trouver, dans les liaisons dangereuses de Kolderos de Laclos. Oh, comment on dit Schorderlo. Pour une fois, on dit que, comme c'est écrit, Schorderlo de Laclos. Enfin, je n'ai pas connu personnellement, donc je ne sais pas comment. Alors, 1782. Mais j'espère que vous l'avez lu, c'est absolument sublime. Alors, l'erreur du vicomte de Valmont, et d'ignorer que l'amour est toujours réciproque. Il croit pouvoir séduire sans être engagé le moins du monde, sans partager l'amour, par pur jeu, une femme pudique et chaste, à l'opposé des libertines qu'il fréquente. Il s'aperçoit un peu tard, je vous rappelle que l'histoire finit très très mal, les amoureux ne se retrouvent que dans la mort, autant dire qu'ils ne se retrouvent jamais. Il s'aperçoit donc, bien après la maîtresse du scénario pervers, la marquise de Merteuil, qu'il aime en retour sa vertueuse amante, Madame de Tourvel. Et sans doute, c'est de se voir aimable dans le miroir de son regard, qui n'y est pas pour rien. Je cite « Je m'étonne du charme inconnu que j'ai ressenti. L'ivresse fut complète et réciproque. Et pour la première fois, la mienne survécut au plaisir. Je ne sortis de ses bras que pour lui jurer un amour éternel. Et il faut avouer que je pensais ce que je disais. » Voilà ce qu'il écrit à la marquise de Merteuil pour lui annoncer le succès de leur commun plan de séduction, où elle sut, elle, moins godiche que lui, lire que le dit plan avait totalement échoué. Un mois plus tard, elle lui en fait l'interprétation. « Vicomte, vous aimiez Madame de Tourvel, et même vous l'aimez encore. » Il ne reste à Valmont que de se lamenter, qu'à se lamenter. Je regrette Madame de Tourvel. Je suis au désespoir d'être séparée d'elle. Je paierai de la moitié de ma vie, de la moitié, seulement, le bonheur de lui consacrer l'autre. Il lui promet une moitié. Mais c'est de sa vie entière qu'il paiera. Alors j'aborde maintenant une question où m'ont laissé les antécédents durant lesquels Lacan avançait doucement. Je ne reprends pas la référence inaugurale du séminaire 1 que Agnès a rappelé. Il y a encore dans le séminaire 4, même leçon, dans la même leçon que celle où Lacan reprend les fondements freudiens de l'état amoureux, une remarque sur la réciprocité des sentiments considérés comme relevant essentiellement de l'imaginaire. Je cite « Le propre des relations imaginaires est d'être toujours parfaitement réciproque ». Puis, du séminaire 5 au 10, en gros, hein, parce que on va aller vérifier tout, hein, la définition de l'amour devient « donner ce que l'on n'a pas ». Jusque-là, dans cette définition, nous pourrions retrouver les fondements d'étayage narcissique, je réunis les deux puisqu'ils se retrouvent dans l'imaginaire, étayage narcissique nécessaire à l'état amoureux. Et retrouver aussi la réciprocité dans un échange de bons procédés, donner à l'aimé ce dont il croit manquer, qui en retour le suppose non manquant en l'aimant. Seul l'amour peut croire en ce mirage, voire miracle, puisqu'on parle du miracle de l'amour. Alors, dans le séminaire 12, la définition se complète, d'un « à quelqu'un qui n'en veut pas ». Se rajoute à démentir la réciprocité de l'amour, car il introduit ce que la première partie de la formule ignorait, la place du manque entre les partenaires, la place de la cause. Tentative de l'amour de laisser place au désir, point d'interrogation. Alors s'agit-il encore de la même définition de l'amour comme sentiment, ou s'agit-il de l'amour sinon plus digne, comme il en a été question à la première séance, en tout cas un amour qui n'exclut pas le désir? Alors j'entendrai ainsi le dialogue plus récent que les autres extraits que je vous ai un peu lus de la chanson d'amour entre Serge Gainsbourg et Jeanne Berkin, dont toute ma génération se souvient. Je t'aime, moi non plus. Alors, extension du domaine de l'amour. J'en viens à la chute. Dans le séminaire 11, le transfert, où Lacan parle beaucoup de l'amour, mais d'un autre amour, d'un amour qui s'adresse au savoir, il passe de la définition freudienne, l'amour comme fondamentalement narcissique et faussement oblatif dans l'étayage, si on veut le bien de l'autre, c'est parce que celui-ci nous est nécessaire, sentiment qui soutient toujours la réciprocité aimer, être aimé, c'est écrit dans la leçon du 13 mai 64, jusqu'à conclure, en juin 64, sur un amour qui s'adresse à l'objet dans l'autre, un amour qui, loin de se conforter d'être tout pour l'autre, s'alimente de la trace absente de l'objet, appel qui permettrait à l'amour de rattraper le désir. Ce passage de la demande à la cause s'actualise particulièrement dans la relation transférentielle, où l'amour ne s'adresse pas tant à l'analyste qu'à l'objet-cause qu'il représente. Et la demande est une demande de savoir plus qu'une demande d'amour, même si les deux se superposent de temps en temps. Est-ce l'entrée d'un nouvel amour qui mène à un désir inédit, celui de l'analyste ? Est-il encore sentiment réciproque, pas au sens de la suffisance narcissique ? Et si étayage il y a, c'est sur un objet cause et non but, commun aux deux protagonistes, le savoir de l'inconscient. On pourrait plagier, c'est pas quelqu'un que j'adore, mais j'ai trouvé que c'était rigolo, on pourrait plagier la définition de l'amour donnée par Saint-Exupéry. L'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Sauf que, il n'y a rien à voir. C'est là où ça se gâte. Il y a à savoir, voir ça, et pas le même savoir. Sans doute, c'est une des difficultés de transmission dans les passes, d'ailleurs. Ça, c'est une hypothèse. Le séminaire encore, qui démarre sur la passion de l'ignorance, sur ne rien vouloir savoir, s'achève sur un amour qui se supporte d'un certain rapport entre deux savoirs inconscients. Une réciprocité encore, on peut dire, mais cette fois-ci sans miroir. Le transfert en est une application particulière, mais pas exclusive. Et vous allez voir que je finis sur une note optimiste comme mon amie Agnès, ce qui laisse quelque espoir de belles amours plus dignes. Voilà.
Oui, alors on avait prévu initialement que je parlerais entre Agnès et Martine. Et puis à la lecture des textes, on s'est dit qu'après tout, mon texte était un cas particulier, peut-être d'illustration des propos de nous. J'écris quelques petites choses là. C'est inévitable au fond. Puisque je vais parler, j'ai intitulé mon texte, toujours dans l'histoire de miroir, miroir brisé. Je vais parler d'Althusser, hein, ce philosophe. Alors, quand j'ai écrit ce texte, je pensais que c'était évident pour tout le monde, et puis on m'a fait remarquer que non, c'était pas évident pour tout le monde ce qui s'était passé, que ce philosophe marxiste, intellectuel, phare des années 60-70, qui a formé toute une génération de philosophes, a aussi été connu parce qu'il a fini par étrangler sa femme en 1980 dans un accès dépressif. Hein. Donc ça étant posé, pourquoi j'avais envie de parler d'Althusser, pourquoi j'avais envie de parler de ses lettres à Hélène ? Parce que ces lettres disent que l'amour demande l'amour. Il ne cesse pas de le demander, il demande encore. Ou si vous préférez, parce que encore, c'est le nom propre de cette faille d'où dans l'autre par la demande d'amour. Nous verrons qu'encore, chez Louis et Hélène, c'est une faille insondable, une douleur qui pousse la réciprocité de la demande d'amour à la demande de mort. Côté Louis, le Louis, un seul mot comme elle l'appelle, nous disposons de nombreux documents cliniques, entre guillemets. Je les appelle comme ça parce qu'ils ont été voulus comme tels par lui, en particulier sa deuxième biographie, L'avenir dure longtemps, écrite en 1985, donc 5 ans après le drame. Celle-ci n'avait pas seulement pour but de soulever la pierre tombale du silence, comme il le dit, liée au non-lieu, mais aussi de servir, guillemets, à éclairer ses contemporains en se prenant lui-même comme cas clinique. Il faut dire qu'il n'a eu de cesse de le faire avec Hélène, en tout cas dans ses écrits. Ses lettres en sont témoignage et en même temps sont le reflet du dialogue conflictuel qui les a unis, désunis pendant 34 ans. Côté Hélène, et faute de publication toujours ajournée de ses propres lettres, on ne peut s'appuyer que sur leur reflet entrevu dans le miroir de la correspondance écrite par Louis. Cette correspondance de 700 pages, étalée de 1947 à 1980, souvent liée aux aléas de santé de Louis Althusser, qui le séparait d'elle, hospitalisation ou mise au vert préventive ou de convalescence, est belle et poétique. Certes, elle contient du domestique banal, du philosophique et du politique, ce qui est attendu. Certes aussi des cancans sur la vie intellectuelle et l'intelligentsia française. Certes, elle a le grave défaut d'être préfacée par Bernard-Henri Lévy, qui rabat avec sa cuistrerie habituelle l'œuvre sur le sujet. Mais ses lettres sont avant tout émouvantes, étonnamment poétiques et dignes d'un autre Louis. Poétiques et prophétiques comme celle-ci de l'automne 1945. Je vous cite. Une sacrée envie que j'ai, mon ami, de vous embrasser, une telle envie que je le dessinerais si je le pouvais, que j'ai envie de dire comment ça se ferait, comment je vous verrais tout d'un coup n'importe où, gare ou rue ou nature, comme on rirait ensemble pour que le silence dure, pour qu'il n'y ait que le silence, plein, œuf et ciel, soleil et air, tout heureux de vivre sans à rendre des comptes à Dieu, comme je vous serrerai dans mes bras à vous rompre les os et les chairs, et vous, le souffle court et coupé, vous vous dégageriez un peu pour rire à nouveau, et on se verrait riant dans les yeux, et on verrait le rire de près dans les yeux, de si près que nos lèvres riraient ensemble à se toucheraient sans cesser de rire, se reconnaîtraient dans leur silence, tout nus, les yeux fermés, sur le silence intérieur comme une vie profonde dont les bras font le tour et qu'ils tiennent fort pour qu'elle ne fuit pas. Toute la vie est en dedans, bien prise, les mains, pas plus que les yeux, sont aveugles, mais tous deux fermés sur cette vie qui bat comme un feu sourd dans l'automne. Et voici nos mains et nos corps à la recherche de ce monde reconnu, leur monde composé où les aveugles voient. Alors évidemment, on peut dire que Louis Amoureux se fait poète de la lumière, du silence, des lèvres et du rire. Dans le même temps, comment rester sourd et ne pas entendre déjà la mort à l'amour lié ? Comme je vous serrerai dans mes bras à vous rompre les os et les chairs, et vous le souffle court et coupé. C'est écrit 30 ans avant le drame. Et ne pas voir ses mains comme les yeux, fermées, les mains fermées sur cette vie qui bat. De la même façon, si on trouve émouvant, attendrissant, la variation et la modulation selon les époques des petits noms qu'il lui donne, Choucha, Chourin, Mon Chourin, Ma Chouchinette, Petite Tête de Chourin, Bistoufle, Carpe, Ma Carpillonne. On est très, très étonné en lisant ces lettres, cet intellectuel qui... Hein. On ne peut être que frappé, par contre, par l'ambivalence du surnom principal, celui qui revient 90% du temps, Chourin, qui, d'après Althusser lui-même, est une forme dégradée de surin, non argotique, du poignard. Il n'empêche, elle est la femme élue, celle qu'il aime. Et pour lui qui en a tant douté, celle qui, comme il le dit, est la plus haute preuve de la réalité de son existence. Mais justement, pourquoi est-ce cette femme-là qui est identifiée à l'amour, immuable, intangible, alors qu'il en a tant aimé, désiré et honoré d'autres, au long de sa vie de grand séducteur ? D'abord, comme il le dit à plusieurs reprises, parce qu'elle a le fameux profil, ce trait unaire qui lui est indispensable pour tomber amoureux. Mais surtout, elle va venir occuper pour lui la place de la bonne mère, celle, ouvrez les guillemets, celle qui donne avec une générosité sans condition, sans enfermer, ouvrez les guillemets, entre les haies des camps, des interdits, des devoirs et des tâches. Un monde à l'envers de celui qu'il a connu avec une mère castratrice, austère, et qu'il avait mis en place d'un autre Louis, idéal et idéalisé. Le mort, celui qu'elle devait épouser, le mort dont elle est toujours amoureuse, même si elle a épousé le frère de celui-ci, et une mère qui lui demande de jouer le rôle du père, de ce père défaillant. De ce père, de cet amoureux de remplacement, de ce mari de seconde zone. Alors, la bonne mère, la mauvaise mère, celle qui donne, celle qui prend, pas si simple. La crainte fantasmatique de Louis d'être, voyez les guillemets, possédé, dépossédé par l'autre, en particulier quand l'autre prend la consistance de la femme amoureuse, de celle qui le veut lui. N'oublions pas que sa première vraie décompensation psychotique aura lieu après ses premiers rapports sexuels à 27 ans et que les femmes amoureuses le font régulièrement fuir et ou tomber en dépression. Cette crainte fantasmatique s'applique encore plus étroitement à Hélène et confond conjoint les deux mères. Comme il lui écrit quelques années après, qu'il y a deux façons de posséder l'autre. Lui prendre ce que faisait sa mère, la mauvaise mère, et lui donner sans condition, rendre encore le sujet plus débiteur et dépendant, ce que fait Hélène. Ce don qu'elle lui ferait, cette liberté qu'elle lui donnerait, y compris d'aimer ou de posséder d'autres femmes, c'est en fait son fantasme à lui. Certes, il lui parle de ses désirs, poétiquement qui plus est. Dans une lettre, il parle d'une jeune fille avec des seins beaux comme des yeux ouverts. C'est magnifique. De ses conquêtes transitoires et de ses amours plus durables, ses amies latérales comme il les appelle. Il est persuadé qu'il peut tout lui dire comme à une bonne mère qui peut tout entendre. Or, il n'en est rien, comme le manifestent très clairement les annotations amères qu'elle porte sur une lettre de 1958, envoyée lors de vacances avec Claire, une de ses amies latérales, qui a beaucoup compté, sans doute celle qui a le plus compté. Il en fera l'analyse a posteriori en 1985. Elle lui reprochera même d'être un monstre, de lui avoir imposé ça et tous ses accès de souffrance. En octobre-novembre 1980, elle lui annonce qu'elle va le quitter, moyennant quoi elle s'enferme avec lui dans le petit appartement de la rue d'Ulm. Ils ne sortent pas pendant 10 jours, prisonniers l'un de l'autre, sauf pour aller voir René Diatkine, leur analyste commun. Celui-ci, arrivant à convaincre Louis de se faire hospitaliser, c'est elle qui lui arrache un sursis fatidique de 3 jours. Elle veut le quitter, mais ne peut le lâcher. Les sentiments sont toujours réciproques. En tout cas, leur souffrance, leur peur de l'abandon le sont. On sait comment ce huis clos s'est terminé, avec le souffle court et coupé d'Hélène et les mains de Louis fermées sur cette vie qui bat comme un feu sourd dans l'automne. Dans ce meurtre inconscient, Louis se détruit lui-même, c'est un meurtre du soi. Il détruit son double dans le miroir, destruction d'autant plus troublante qu'elle est demandée en miroir par ce double. Double qui en crée les conditions subjectives en lui annonçant leur séparation, et objective en s'enfermant avec lui, qui va de plus en plus mal, en retardant son hospitalisation, et qui vient s'offrir sans se débattre aux mains aimées et meurtrières. Déjà dans une lettre de novembre 1947, Hélène évoque sa certitude réconfortante que le seul recours de ma solitude est la mort, et qu'elle compte sur lui pour la sauver comme il a toujours compté sur elle. Comme le dit Martine Ménès, l'amour est toujours réciproque, tout dépend à quelle hauteur on met le miroir. Dans le cas de Louis et Hélène, il faut bien dire que les jeux de miroir sont compliqués, multiples, rappelant les jeux de miroir des labyrinthes en fait. Bien sûr, il y a le miroir Louis-Hélène, celui du même malaise d'être, de la même souffrance, mélancolique et persécutive, des mêmes doutes sur la réalité de leur existence, avec les mêmes suppléances, leur même passion intellectuelle et d'engagement, le marxisme et la psychanalyse. Et tous les deux sur le même mode particulier, à l'intérieur et à l'extérieur, toujours au plus extime de l'Église, puisqu'il a été très longtemps catholique, du parti, de la philosophie, de l'université, de la psychanalyse, toujours en position d'avoir raison seul contre tous, d'être le père du père. Mais il y a d'autres identifications en miroir. Celle de Louis et de sa sœur Georgette, le double qui le protège du père et des femmes entreprenantes, celle avec qui il partage aussi l'engagement catholique puis politique et assez longtemps un psychanalyste, Laurence Thévenin. Mais aussi l'identification, Georgette-Hélène, toutes deux femmes du pur amour, hors sexe, de l'amitié, c'est de lui ce terme, avec qui il peut parler d'homme à homme, il écrit souvent, les deux expressions sont de lui. On l'a vu plus haut, Hélène est aussi identifiée à la mère, à la bonne mère côté lumière et à la mauvaise mère côté ombre, et dans les deux cas, la femme qui le possède. Et in fine, derrière Hélène, identifiée à la mère, à Georgette, à Louis, il y a une dernière identification à Idea, comme à Grand Idea. Comme sa mère l'a placé, lui, en place d'idéal du moi, en place de ce fiancé, cet autre Louis mort glorieux de 1918, auréolé de toutes les qualités, en particulier intellectuelles, puisqu'il avait fait aussi normal, il se retrouve à la même place pour Hélène. Et symétriquement, le courage passé est présent, résistante, communiste, exclue, mais militante, d'Hélène, la rigueur intellectuelle d'Hélène la met en place d'idéal du moi. L'amour qu'il se porte, Je proposerai alors de l'écrire grand I de A, poinçon grand I de A. Avec une question, au-delà de la structure particulière de ces deux sujets, ne peut-on faire l'hypothèse, discutable peut-être à discuter, de la généralisation de ce mathème, dans la mesure où ce qui aveugle toujours dans l'amour, c'est de voir I de A dans le partenaire, d'avoir une relation avec I de A. Pourrait-on faire de I de A poinçon I de A le mathème de l'amour en général, de l'amour préanalytique en tout cas, dans sa réciprocité? Alors peut-être le nouvel amour dont parle Lacan en fin d'analyse, débarrassé de ses oripeaux, reconnaissable à ce qu'il s'adresse à ce que l'autre n'a pas, pourrait-il s'écrire petit a poinçon petit a, ou mieux, ou à prime, oui, ou mieux parenthèse vide, pour souligner l'objet qui n'est pas là. Voilà.
A sauté ça, parce que c'était une dénégation.